L'Institut Ipsos vient de réaliser un sondage pour le nouveau magazine littéraire révélant que 91% des Français estiment qu'il y a aujourd'hui plus de violence et de tension qu'auparavant. 64% des Français pensent que nous pourrions prendre le chemin d'une société dominée par la haine, violence lors des manifestations des Gilets jaunes, harcèlement sur les réseaux sociaux. On est en droit de se demander effectivement si notre société n'est pas en train de basculer dans une ère de la défiance et de la haine à l'égard des policiers, des juifs, des représentants politiques, des journalistes, des femmes, des migrants. Bref, une haine tout azimut qui ne se cache plus. Il semble que désormais il soit possible de haïr au grand jour. Sommes-nous entrés dans le temps de la haine et quelle menace pour nos démocraties? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher avec des contributeurs de ce dossier du nouveau magazine littéraire et sa rédactrice en chef adjointe. Bonjour Aurélie Marciro.
Bonjour Florent.
Et également Brice Teinturier qui a fait donc cette étude. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Aurélie Marciro, pardon, je vais commencer avec vous. Pourquoi est-ce qu'au nouveau magazine littéraire, vous avez voulu consacrer un numéro sur l'état de la violence dans notre pays et en quoi il vous semble que quelque chose a changé précisément dans notre rapport à la haine?
Alors en fait, à la fin de l'année, on s'interrogeait, on tournait autour de la violence, notamment auprès des journalistes, sur les fake news, et enfin les infox, et on cherchait le bon fil à tirer. Et puis, en réunion, on a commencé à évoquer les simulacres de décapitation dans les manifestations, de cette haine du président de la République qui était quand même très particulière, qu'on n'avait jamais vue de mémoire de journalistes, notamment politiques. On a aussi évoqué, par exemple, les torrents de boue qui déferlent sur Marlène Schiappa en tant que femme, de haine, de misogynie. Alors on avait moins on était moins sur l'antisémitisme à ce moment-là, il faut se rappeler, hein, juste avant Noël. Et donc on s'est dit, mais voilà, en fait dans ce pays on n'arrive plus à se parler et on a un sujet sur la haine, et c'est pour ça qu'on a confié à Brice et à son institut le soin d'essayer de comprendre d'où ça venait, quelles étaient les raisons et quelles étaient effectivement, vous l'avez dit, les principales catégories de la population touchée. Et c'est vrai qu'on a été assez surpris par les résultats, enfin on va détailler, mais sur effectivement le refus de la haine, mais quand même des interstices, quelque part dans la population, d'acceptation d'une certaine violence.
Alors justement, on va y venir. Brice Teinturier, il y a évidemment ce climat particulièrement délétère ces derniers mois en France, avec un climat insurrectionnel, avec des attaques des forces de l'ordre, des attaques antisémites ces derniers temps, un cyberharcèlement aussi qui est absolument massif. Est-ce qu'on est là dans une violence généralisée qui serait le fruit d'une crise de la démocratie, ou est-ce que c'est d'abord le résultat d'un contexte économique et social particulièrement difficile? Et on va venir tout de suite évidemment au résultat de vos études. Qu'est-ce que votre étude nous indique sur ce point-là?
Ce qu'elle nous indique, c'est que 21% des Français considèrent aujourd'hui qu'il est normal d'user de violence pour défendre ses intérêts. Alors on peut regarder l'immense majorité qui dit le contraire, mais malgré tout, ce qui est important, je crois, dans ce 21%, c'est que vous avez également, chez les jeunes, chez les moins de 35 ans, un niveau qui est beaucoup plus élevé, de l'ordre de 35%, et que vous avez, chez les sympathisants de la France insoumise, 47% de ces sympathisants qui justifient le recours à la violence pour défendre ses intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société, il y a toujours des tensions, il y a toujours des conflits. L'enjeu, c'est le mode de résolution de ces conflits. Et je ne sais pas si la sage-femme et si la violence est la coucheuse de l'histoire, comme disait l'autre, comme disait Marx, mais en revanche, ce que l'on voit bien, et c'est plus récent, c'est qu'il y a une revalorisation par certaines forces politiques du rôle de la violence dans la société, comme si les espaces de négociation étaient devenus impossibles. Mmh. Et ça, c'est, si ce n'est nouveau, du moins un des éléments qui caractérise la période, et un des éléments que je crois très inquiétant, parce que sous couvert d'une nécessaire violence pour faire évoluer les choses, en réalité, on fait le jeu d'un certain nombre d'artisans de la haine, et c'est ce que nous voyons de plus en plus. La haine, elle a toujours été là, mais la haine exprimée finit par tuer.
Oui, quand on regarde les réponses sur l'acceptation de la violence et de la haine, on voit qu'elle est plus forte quand on a une proximité avec la France insoumise ou avec le Rassemblement national. Alors peut-être que c'est une question de culture politique. Au fond, l'insurrection a toujours été plus acceptée, plus acceptable d'une certaine manière dans les deux extrêmes. Mais quand on regarde un peu les choses, comment on justifie du côté du Rassemblement National et de la France Insoumise justement cette violence? Parce que là aussi, il y a des chiffres qui donnent quelques indications, Aurélie Marciro.
Alors, c'est vrai que du côté de la France Insoumise, et Brice, quand on parlait du chiffre signalé, il y a beaucoup plus de jeunes à la France Insoumise que dans d'autres partis partie. Donc c'est vrai que les jeunes sont plus enclins à accepter la violence. Et puis il faut se souvenir de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, le dégagisme. Enfin, il y avait une certaine le pouvoir au peuple. Il y avait une certaine violence, un certain mépris de la classe politique. Et au fond, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, à mon sens, dans ces résultats pour ce qui est de la culture politique de la France insoumise. Pour le Rassemblement national, c'est autre chose. On est plus dans la culture de l'ordre, semble-t'il, Brice.
Oui, la tradition au RN est beaucoup plus une tradition de demande de chef, de demande d'ordre, de demande de sécurité, de rejet aussi de l'autre. Hein. Il ne faut jamais oublier que le marqueur qui définit le mieux les sympathisants RN, c'est le rejet de l'immigration et l'obsession de l'immigration. Mais je crois que la variable qui, vous le signalez, chez les sympathisants de la France insoumise, explique ce haut niveau d'acceptation de la violence, ce n'est pas seulement la variable sociologique de l'âge, parce que on est vraiment à 47% chez les sympathisants de la France insoumise d'acceptation de la violence, et à 35% chez les moins de 35 ans. C'est une culture politique, et c'est ça qui est important. C'est une culture politique qui donne aussi du sens à la violence. Et toute la question, je crois, c'est de savoir dans quelle mesure on peut reconnaître que la violence fait partie de notre société, mais également et immédiatement considérer quelle est la limite inacceptable. Parce que ceux qui valorisent la violence se mettent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toujours du côté de ceux qui l'exercent, jamais du côté de ceux qui la subissent. Quand on se met du côté de ceux qui la subissent, eh bien je crois que la violence cesse d'avoir ses attraits insurrectionnels, romantiques, ou d'un coup de sage-femme de l'histoire, et qu'on y voit beaucoup plus le déchaînement et de la passion, de la haine, du rejet, et l'incapacité à organiser ses passions, comme disait Spinoza.
Je vous demandais, Brice Teinturier, pour débuter cette émission, qu'est-ce qui, au fond, était à l'origine de tout cela, de cette violence? Est-ce que c'est la crise de la démocratie ou est-ce que c'est, au fond, une crise sociale et économique? L'un des chiffres très probants de cette étude, c'est ces fameux 80%, 91% des Français qui considèrent qu'il y a aujourd'hui plus de violence et de tension qu'auparavant. Mais quand on regarde les chiffres un peu plus de près, on voit qu'au fond, les explications de cette violence, elles ne sont pas les mêmes selon si l'on est CSP+, selon si l'on est CSP-. Et peut-être que là, ça nous donne aussi des indications sur ce que l'on considère comme étant précisément les racines, au fond, de cette violence, Brice Teinturier.
Pour les Français au global, la première raison qui explique cette violence, ce sont les difficultés sociales de plus en plus grandes d'une partie des Français, suivies de près par le sentiment que les élites parisiennes, politiques, économiques, médiatiques, seraient déconnectées de la réalité. Mais ces questions-là se distribuent de manière différente suivant la population. L'explication par le social est plus l'expression de sympathisants de gauche, la question de la déconnexion des élites est plus le sentiment des milieux populaires, des sympathisants de la France insoumise, des sympathisants du RN. Donc effectivement,
qui est donc là plutôt une crise de la démocratie au fond, hein, la rupture entre les élites et...
Absolument, ah, voilà. Et une crise de la démocratie qui n'est pas nouvelle. Ça fait maintenant depuis 4 ou 5 ans que nous avons une part croissante de la population, et à nouveau d'ailleurs les jeunes, qui considèrent que d'autres régimes seraient tout aussi bons que la démocratie. Donc bien sûr, il y a cette question de la démocratie. Il y a aussi les questions économiques qui ne doivent pas jouer le rôle d'excuse, mais qui sont des éléments d'explication. On le voit d'ailleurs dans l'enquête. Et puis encore une fois, au-delà de l'économique et du social, au-delà de la supposée déconnexion, vous avez ensuite un travail politique, un travail idéologique qui donne du sens ou pas à la violence.
Audemars Cirot.
Oui, effectivement, et Brice me le faisait remarquer, il faut aussi noter... La troisième cause, c'est l'affaiblissement des normes sociales, qui est aussi ce qui fonde la société. Et il y a quand même un chiffre qui est presque rassurant, c'est qu'au fond, la dernière raison qui est donnée, c'est le recul de la culture du compromis. Je me suis dit que ce soit la dernière raison évoquée, peut-être finalement une petite lueur d'espoir dans ces chiffres qui sont assez... assez inquiétant, et il faut dire, effectivement, pour la démocratie.
Ceci dit, pardon, vous dites Audemars Cirot dans le papier, parce que vous avez également... j'ai dit Aude, pardon, c'est Aurélie Marcirot. Dites-le-moi.
C'est très joli aussi.
Vous dites que l'enseignement de cette étude, l'un des enseignements en tout cas, c'est que notre société est en train précisément de remettre en question cette idée d'une société de la négociation et du compromis. À qui la faute, finalement? Pourquoi on perd un peu cette culture du dialogue, Aurélie Marcirot?
Alors, je pense que on a une raison très concrète dans ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, c'est que le président de la République élu a fait un sa campagne en publiant un livre qui s'appelle Révolution. Il a donc balayé la droite et la gauche, le clivage qui était une sorte d'amortisseur à haine quelque part, les corps intermédiaires et au final il se retrouve confronté à cette population qui quelque part est sans doute déçue de son action, et je pense que c'est une des raisons très concrètes de ce qu'on retrouve aujourd'hui comme résultat dans ce sondage, notamment.
Oui, il peut y avoir ça. Je crois qu'effectivement, la troisième des raisons que vous avez rappelées, hein, qui est aux yeux des Français, l'affaiblissement des normes sociales, de l'éducation, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, joue en réalité un rôle majeur et peut-être beaucoup plus important encore que les deux premières raisons citées. Parce que quand on est dans l'idée que la négociation ne débouche sur rien, quand on renonce à la négociation, quand on valorise la colère, et moi je suis très frappé d'entendre des tas de propos qui disent « oui, mais il était ou elle était en colère ». On est dans quelque chose qui va à l'encontre de justement ce qu'il faut réfréner. Ce qu'on doit apprendre pour être dans une société pacifiée, c'est à réfréner la colère. C'est pas à la considérer comme étant l'élément explicatif et légitime du coup de poing, de la haine ou de la violence. Et c'est ça, je crois, qui est ce qui craque le plus aujourd'hui. Des enjeux ou des problèmes économiques et sociaux, on en a toujours connu, ils peuvent être plus ou moins aigus, mais on en a toujours connu. En revanche, la question de la norme, la question de la retenue, la question de ce que l'individu a la capacité ou le droit d'exprimer, de faire ou pas, c'est ça, me semble-t-il, qui a bougé au cours des 10 ou 15 dernières années.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, dans les questions spécifiques sur le mouvement des Gilets jaunes et les violences, il y a quand même des chiffres qui sont assez étonnants. Alors, ce qui a le plus choqué, qui est inacceptable, c'est les dégradations, par exemple, de l'Arc de Triomphe. Mais en revanche, quand vous arrivez sur les intrusions au domicile de députés de la majorité, finalement, vous n'avez que 65% des personnes interrogées qui trouvent ça inacceptable. Tout comme les menaces de mort sur les réseaux sociaux, pour les députés de la majorité, vous n'avez que finalement que 59% des gens qui trouvent ça inacceptable. C'est quand même assez saisissant.
C'est ce qui est devenu la haine du politique, la haine des politiques dans une partie de la population, c'est quand même extraordinairement préoccupant, qu'on n'avait pas pour le coup, il y a une quinzaine d'années ou pas à ce point. Il pouvait y avoir de la déception, il pouvait y avoir du rejet, de la critique, de la défiance, tout ce que vous voulez, mais là on a basculé sur quelque chose qui va au-delà et où l'on légitime, on considère que des violences physiques et pas simplement des injures faites à des représentants de la nation, je rappelle quand même qu'ils sont des représentants de la nation, eh bien finalement sont quelque chose de tout à fait considérable, acceptable par une partie de la population.
Et à quand vous faites remonter justement ce basculement? Parce qu'effectivement, Brice Teinturier, hein, les violences de manière générale, elles ont souvent beaucoup plus d'écho que les actes de bienveillance, et les réseaux sociaux évidemment ont un effet de caisse de résonance absolument incroyable. Est-ce que d'abord réellement ces violences augmentent? Est-ce que c'est surtout le sentiment de violence qui augmente, hein? On peut faire un parallèle avec la question de la sécurité et du sentiment d'insécurité. Est-ce que vous avez vous senti que quelque chose s'était passé précisément dans l'opinion, et à quand ce basculement?
Alors, ce n'est pas qu'un sentiment, je crois que véritablement il y a quelque chose qui craque et que objectivement les faits de violence à l'égard des élus et des politiques sont en considérable augmentation. Il y a le moment, on va dire, proche, que je daterai, moi, de 2013. Les bonnets rouges et une certaine forme, là aussi, de radicalisation, d'acceptation de la violence commencent à émettre. Mais en réalité, il faudrait remonter beaucoup plus en amont. Je pense qu'un des tournants, c'est le début des années 2000, où le sentiment que la politique s'est épuisée, qu'elle ne parvient plus à fabriquer du résultat et être efficiente, s'ajoute avec l'idée d'une caste déconnectée des réalités. Et vous avez, quand les Français se disent, ou une partie des Français se disent que le système est bloqué, eh bien vous avez la montée de ce qu'on va appeler le populisme, la vision totalement idéalisée d'un peuple pur face à des élites déconnectées. Et ça, c'est la porte ouverte ensuite à des violences qui s'expriment à l'égard des représentants.
Oui, l'écrivain et chercheur Christian Salmon, dans le dossier, fait remonter ce début de la violence à 2008 et à la crise des subprimes, où en fait le discours néolibéral des classes dirigeante, finalement s'est effondrée, et c'est là où finalement la parole politique s'est complètement a perdu totalement de sa valeur, s'est démonétisée, et ajouté à ça après les réseaux sociaux, etc., on en arrive à la situation d'aujourd'hui pour lui. C'est ce moment-là où en fait la population ne croit plus au discours de toute sa classe politique.
Il y a quand même quelque chose qui est frappant, hein, Brice Teinturier, c'est qu'au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait quelque chose qui s'était passé dans l'opinion. Il y avait une forme de sursaut, la perception de la France, de sa place dans le monde. Elle avait soudainement été modifiée, très largement améliorée. La confiance en l'avenir s'était améliorée. Le climat des affaires était meilleur. Et puis, d'un coup, quasiment, les choses basculent dans l'autre sens. Comment le comprendre ?
Je dirais pas d'un coup, progressivement.
On passe de l'optimisme quasiment au gouffre du pessimisme.
Non, on passe d'un moindre pessimisme au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à une remontée lente mais régulière avec les tendances lourdes de la société française qui sont la défiance, le pessimisme et une forme d'haltérophobie. Hein. Je rappelle toujours que dans notre pays, ce qui est une singularité dans le monde, 80% des Français disent quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas qu'on n'est jamais trop prudent à son égard et pas qu'on peut lui faire confiance. Ce qu'on n'a absolument pas dans la plupart des autres pays dans le monde. Donc on renoue avec des tendances lourdes. Je crois que la promesse initiale d'Emmanuel Macron, c'était « je vais débloquer ce pays en faisant de la politique autrement et en m'appuyant sur la société civile ». Un des problèmes, c'est qu'il ne s'est pas appuyé sur la société civile, il a plutôt enjambé les corps intermédiaires. Mais l'idée qu'il fallait débloquer le système en faisant de la politique autrement, ça c'était une idée puissamment ressentie. Et vous voyez bien qu'au cœur du sujet, c'est moins les considérations économiques essentielles que notre rapport à la politique et que notre rapport à l'autre. Et c'est ça qui se joue et c'est ça qui fait que ce soit en 2008, et j'adhère tout à fait aussi à cette chronologie, ou un peu plus en amont, il y a quelque chose qui commence à s'enrayer dans la société française avec cette acceptation puis valorisation du dégoût de la politique, de la colère, de la radicalité et enfin de la haine.
Vous parlez d'haltérophobie, vous êtes l'auteur, Brice Teinturier, d'un ouvrage « Plus rien à faire, plus rien à foutre ». Vous en parlez justement, page 14, dans cette
la
France de
l'ombre. La crise de la démocratie.
J'ai dit quoi ?
Le sous-titre étant « La vraie crise de la démocratie », parce que sinon c'est...
Dans cette France de l'anxiété et du doute, le ressentiment de l'haltérophobie dont vous parliez enfle à la vitesse d'un fleuve de plus en plus violent, même si peu d'entre nous osent le dire haut et fort, comme s'il fallait se rassurer dans le confort protecteur et illusoire d'une France généreuse, ouverte, définitivement non xénophobe. Pourquoi au fond, Aurélie Marcireau, cet optimisme progressiste hérité des Lumières, a cédé la place à une forme de fascination du pire, du catastrophisme. On le voit par exemple dans la question de la représentation complotiste qui, elle, enfle considérablement aussi. Pourquoi ce passage ? Merci.
Pourquoi il y a une espèce de fatigue de la démocratie, c'est ça ? Je pense que il y a un livre dont on a beaucoup...
Fatigue de l'optimisme progressiste, en tout cas, d'une certaine manière, oui. Un effondrement.
Pour reprendre ce qu'a écrit Yasha Mounk dans Le Peuple contre la démocratie, son livre qui est paru cet automne, il y a d'abord des raisons économiques, effectivement, la stagnation économique, et il y a des problèmes d'identité où effectivement certaines sociétés n'arrivent plus à se reconnaître, à s'identifier, et donc du coup produisent de la haine. Et puis, il insiste beaucoup là-dessus, sur la caisse de résonance des réseaux sociaux qui sont des espèces de dépresseurs pour nos sociétés, je pense.
Brice Teinturier.
Oui, moi, je crois que la question des inégalités est un élément absolument central. D'ailleurs, ce qui s'est produit aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, montre à quel point, quand vous avez une société qui ne fabrique plus de l'espérance et un minimum d'égalité, eh bien, progressivement, les choses finissent par basculer dans une forme de populisme, et on l'a avec Donald Trump, mais ce n'est pas vrai que des États-Unis. C'est vrai de toute une série de pays. Donc, la cohésion d'une société, sa capacité à unir les individus autour d'un socle où les inégalités ne sont pas trop importantes, est un élément essentiel. C'est peut-être ce qui fait qu'en France, nous avons, en tous les cas pour l'instant, échappé à l'expression de ce populisme au pouvoir et de cette valorisation aussi d'une forme de violence.
Mais comment est-ce qu'on passe de ce pessimisme à la construction de figures du mal? On l'a vu, les élites, les juifs, les migrants, les sondeurs, vous en faites partie, Brice Teinturier. Comment est-ce qu'on passe de cette fascination du pire et du catastrophisme à la construction de figures au pluriel du mal?
Parce qu'on a besoin de construire des figures du mal. C'est Carl Schmitt le disait déjà, il y a des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs. Ça permet de simplifier la vision du monde dans un monde complexe, d'unifier autour d'une vision globalisante. Et c'est extraordinairement utile d'avoir comme ça des ennemis, toute une série d'ennemis. C'est véritablement le bon thermomètre du malaise démocratique que nous vivons. Moi, j'avais été frappé de voir à quel point 30% environ de Français exprimaient du dégoût à l'égard de la politique. Quand vous vous êtes dans le dégoût, eh bien vous pointez ensuite très rapidement le rejet, et cela vaut pour toute une série de minorités, pour toute une série de groupes, mais tout ça fait sens, tout ça fait bloc. La haine des juifs, c'est le rejet de la démocratie, tout autant que le rejet de la démocratie au nom de sa supposée incapacité à résorber des solutions font le jeu ensuite de la haine des juifs.
Sommes-nous entrés dans le temps de la haine en partenariat avec le nouveau magazine littéraire? Aurélie Marcier, Aubry Teinturier, vous êtes nos invités, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes et Marc Weissmann nous retrouvera également. Il est 8h, vous écoutez France Culture. Sommes-nous entrés dans le temps de la haine? Voilà la question sur laquelle nous planchons ce matin. En partenariat avec le nouveau magazine littéraire qui consacre son prochain numéro sur l'état de la haine. Nous rejoint tout de suite Marc Weissmann. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, écrivain, bien sûr producteur de l'émission Signe des temps sur France Culture et puis auteur notamment d'un ouvrage qui était paru l'année dernière chez Grasset. Un temps pour haïr, vous avez participé vous aussi à ce numéro du nouveau magazine littéraire. Vous y rappelez que les incidents antisémites dans le pays ont considérablement augmenté, 74% sur l'année 2018, alors qu'ils étaient en baisse depuis les attentats de novembre 2015. Qu'est-ce qui, selon vous, Marc Weissmann, provoque cette montée en puissance de ces actes antisémites? Et puis, on verra ensuite de quel antisémitisme on parle. On verra si on a un antisémitisme d'un nouveau genre. Marc Weissmann.
Qu'est-ce qui les provoque? La réponse pourrait être très longue. On peut remarquer que les incidents antisémites ont augmenté. Je me réfère à un article du Monde paru, je crois, jeudi ou vendredi dernier. Les incidents antisémites ont augmenté depuis la manif contre l'antisémitisme de mardi dernier. Il y a eu un pic soudain. Avec des incidents du même genre de ceux qu'on avait vus en 2014, c'est-à-dire des gens qui se précipitent soudainement sur leurs voisins ou sur leurs voisines en hurlant « sale juif, on va tous vous brûler », etc. C'est-à-dire que c'est des bouffées d'irrationnel, de haine pure, qui ne viennent pas nécessairement du même milieu que les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce qui se passait en 2014, on a exactement le même type de dynamique qu'il y a eu en 2014. En janvier 2014, la manifestation Jour de colère, qui était une manifestation de droite, où s'origine un peu d'ailleurs ce qui se passe avec les gilets jaunes aujourd'hui. On avait les soraliens, on avait les dieudonistes qui étaient dans les cortèges. C'était une manifestation dirigée contre le gouvernement Hollande, qui ramassait un certain nombre de groupes identitaires. Et c'est durant cette manifestation, le 26 janvier, qu'on a entendu pour la première fois les slogans antisémites des années 30, résonner dans les Paris, juif, la France n'est pas à toi. C'était dans la suite du psychodrame entre Manuel Valls et Dieudonné qui avait agité tout l'hiver. On a eu, à la suite de cette manifestation, une série d'incidents antisémites très violents, des brusques bouffées de haine dans les banlieues, avec pour la plupart du temps des acteurs qui étaient musulmans. Rien à voir a priori avec une manifestation d'extrême droite. Mais il y a une sorte de dynamique qui se met en place et à la même période, il y a une épidémie de quenelles dans le pays. Les gens se sont mis à faire des quenelles ou dans les émissions de télévision, dans le public. Un technicien l'a fait derrière le présentateur du 20h à un moment donné, je crois, sur France 2. Des gamins sont allés à Oradour-sur-Glane faire le geste à ce moment-là. Quelqu'un l'a fait devant l'école aux Aratora à Toulouse ou frappé par Mohamed Merah 2 ans plus tôt, etc. Ça a monté comme ça. On a fini l'année avec 800 incidents pour l'année. Et une semaine après la fin décembre, il y avait le début de la grande période d'attentats. Et puis après novembre, après les attentats du 13 novembre, soudainement on assiste à une décrue brusque des incidents antisémites. Je crois que c'est moins 69% en 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et soudainement, là, ça repart à la hausse, plus 74%. C'est-à-dire que tout se passe comme si la haine anti-juive était une sorte de mesure de l'énergie de la violence. Il y a une sorte de dialectique bizarre avec les attentats.
Et cet antisémitisme d'aujourd'hui, Marc Weissmann, c'est lequel? C'est celui des années 30 dont vous parliez?
Non.
Ce livre, Un temps pour haïr, vous écrivez, il raconte l'expérience française d'une haine antimoderne globale dont la France a été le berceau et dont ce que l'on nomme l'islamisme n'apparaît au fond que comme le visage le plus saillant. Donc cet antisémitisme d'aujourd'hui, c'est pas forcément avant tout un antisémitisme islamiste? En tout cas, c'est pas que ça.
C'est ça, bien sûr. C'est évidemment pas seulement ça. On le voit avec les gilets jaunes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une espèce de dynamique, c'est-à-dire qu'il y a la résurgence d'une forme d'antisémitisme ancrée français sert en quelque sorte de berceau, de milieu à l'antisémitisme islamiste. C'est un double mouvement qui se complète d'une certaine manière. C'est plus une question d'énergie que d'autre chose. C'est une énergie de la haine qui trouve trouve à s'alimenter de par plusieurs canaux. Et les juifs en sont le point de le point d'union, le point de focalisation, si vous voulez. Donc voilà, on peut supposer aussi que on se rend compte de cette espèce de dialectique entre les deux. À chaque fois que l'antisémitisme atteint dépasse un certain seuil, on va vers des attentats. Moi, je pense que le climat de violence auquel on assiste aujourd'hui, dans lequel on baigne, n'aurait pas pu se produire avant les attentats. Je pense à ce qui se passe en ce moment dans les cortèges des Gilets jaunes. Je crois que la violence islamiste a en quelque sorte libéré une forme d'énergie, une espèce d'acceptation que c'est possible, que quelque chose est possible, quelque chose de la violence pure est possible. Donc il y a une sorte de dialectique entre la colère, les manifestations violentes de colère et puis la violence terroriste. Ça libère une énergie.
Et on va revenir évidemment sur les autres moteurs de l'acceptation.
J'insiste sur un petit point, c'est que je ne crois pas du tout à la culture, à l'idée de la déception d'Emmanuel Macron comme explication de ce qui se passe. Je crois que ça remonte à plus loin. Si je peux me permettre juste d'ajouter un point, je cite dans le papier du magazine littéraire la lettre de François Ruffin, la lettre ouverte parue dans Le Monde. Vous êtes haï, vous êtes haï, vous êtes haï. Il s'adressait à Emmanuel Macron. C'était avant l'élection. La haine existait donc avant l'élection et elle n'est donc pas une conséquence de la politique après l'élection.
Brice Teinturier, Aurélie Marcierot, vous vouliez tous les deux réagir.
Oui, sur la question de l'antisémitisme, je crois que le moment présent, c'est la conjonction de plusieurs formes d'antisémitisme qui, tout à coup, sont réunies. Il y a d'abord des préjugés que nous suivons pour la Fondation du judaïsme français, par ailleurs, des préjugés à l'égard des juifs qui ont la peau dure. Et vous les retrouvez à des niveaux élevés dans la société française. Un tiers, en gros, des Français cumulent tout un certain nombre de préjugés sur les juifs et l'argent, la double allégeance à l'égard d'Israël, la communauté soudée, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi une résurgence du nationalisme. Donc, ce qu'on croyait être terminé, une forme de rejet des juifs par l'extrême droite, par Soral, par ces milieux-là, en réalité est plus vivace que jamais, parce que dans une société mondialisée, fragmentée, etc., ce qui peut réunir les gens, eh bien, malheureusement, c'est souvent le nationalisme, et uniquement le nationalisme. Et ça joue. Le troisième facteur, c'est incontestablement aussi l'islamisme radical, qui, au même moment, vient réalimenter la machine à rejeter les juifs. Et puis le quatrième facteur, tout cela se fait quand même sous fond de crise identitaire et économique, avec l'idée que l'avenir est bloqué, qu'il y a de la violence économique et sociale dans la société, et que le seul débouché serait cette violence et cette haine, et à ce moment-là, elle est à nouveau dirigée contre les juifs.
Aurélie Marcierot, il y a peut-être un autre élément qu'on peut ajouter, c'est aussi comment les politiques, et en particulier ceux du côté de l'extrême gauche, peuvent participer au fond de cette forme d'acceptation de l'antisémitisme. On l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon, qui a été, dont les propos ont fait polémique, il a parlé d'une instrumentalisation de l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez qu'il y a de la part de la France insoumise effectivement quelque chose de l'ordre de l'entretien d'un certain flou autour de la condamnation d'actes antisémites et peut-être qu'on pourrait regarder aussi ce que ça produit précisément sur l'acceptation de l'antisémitisme. Aurélie Marcierot, décidément.
Ah, je pense pas qu'on puisse soupçonner Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme, mais il se trouve que...
C'est pas ce que j'ai dit, hein,
non plus. Non, mais c'est pour être assez clair. Mais il est vrai que dans son mouvement, il y a des personnes qui sont peut-être plus... Enfin voilà, plus... C'est difficile de trouver des bons mots. Qui sont plus ouvertes à ce genre d'idées, mais... Je ne sais pas trop comment répondre à votre question.
Brice Teinturier, Marc Giesman.
Un petit point d'information sur les sympathisants de gauche et les sympathisants de la France insoumise sont ceux qui partagent le moins les préjugés à l'égard des juifs. Donc je crois qu'il faut le rappeler et bien dissocier ce qu'un certain nombre de représentants peuvent dire ou penser et ce que l'ensemble des sympathisants de la France insoumise pensent. Et encore une fois, ils sont les moins pour eux préjugés traditionnels à l'égard des juifs. En revanche, il y a une zone grise où la critique d'Israël peut être une critique politique tout à fait acceptable d'un État qui peut et doit être critiqué comme les autres. et où aussi vous avez, à travers la critique d'Israël et de son droit à exister, une forme évidente de rejet des Juifs, d'antisémitisme, qui se camoufle alors derrière cette critique d'Israël. Et les deux coexistent, je pense qu'il faut bien les distinguer.
Marc Wetzmann.
Ce qu'on appelle l'anti... Il y a relativement peu de gens qui sont subjectivement antisémites, qui disent « je suis antisémite ». En revanche, l'antisémitisme, c'est une narration qui traverse les êtres. Quand François Ruffin, dans son nouveau livre, par exemple, écrit, je le paraphrase, mais il parle à Macron et il dit « j'ai entendu Rothschild et j'ai immédiatement pensé que vous étiez un salopard », la référence Rothschild fait référence, c'est vraiment tout un imaginaire antisémite qui est convoqué là. De la même manière, dans la lettre dont je parlais tout à l'heure, la lettre du 4 mai 2017, quand il dit pas seulement vous êtes haïs, vous êtes haïs, vous êtes haïs. Elle est intéressante à relire, cette lettre, au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Il dit à un moment donné, face à votre discours indigent, votre dîner la retourne, votre manque d'aise avec les ouvriers, vous répondez Shoah, négationnisme, Zyklon B, Auschwitz, Maréchal Pétain. C'est-à-dire que dès cette lettre, il est le premier à mettre en opposition l'empathie supposé avec les ouvriers et le discours sur les juifs, comme si ça devait nécessairement clasher. Donc il y a à l'extrême gauche un imaginaire de cet ordre. Mais il n'est pas unique. Il n'y a pas que là. Il vient effectivement de plusieurs endroits. Il vient de l'islamisme qui s'attaque aussi au capitalisme, aux banques mondialisées, à l'empire anglo-saxon et à Israël vu comme une émanation du judaïsme mondial.
Marc Wetzmann, peut-être je voudrais vous entendre une réaction sur les réponses d'Emmanuel Macron face à cette haine anti-juive. Et puis ensuite, on va passer à la question des réseaux sociaux, qui sont quand même le théâtre d'un déferlement, d'une haine qui va au-delà la question de l'antisémitisme. Mais d'abord, peut-être une réaction sur justement les annonces qui ont été faites au dîner du CRIF d'Emmanuel Macron la semaine dernière.
Ces annonces, elles sont intéressantes. On ne peut que les soutenir. Elles montrent une sorte de fermeté. Maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme effet dans la réalité? Je ne sais pas. Je voudrais ajouter qu'il y a la personne qui s'en est prise à Alain Finkielkraut, Benjamin W, qui est vu par la droite aujourd'hui comme l'émanation de l'islamisme, qui est la preuve en quelque sorte que l'antisémitisme n'est pas le fait des gilets jaunes, mais bien d'islamistes infiltrés. Et ça me semble plus compliqué que ça. Benjamin W, il est l'émanation il est le visage de ce carnaval de la haine parce qu'il concentre en lui tous ses facteurs. C'est-à-dire qu'il est totalement français, son père est algérien mais sa mère est totalement française, c'est un converti à l'islam, il est à la fois gilet jaune, populiste et islamiste. Tout est mélangé chez lui et on peut pas le définir simplement, mais là où il se structure, là où sa subjectivité s'exprime le mieux, c'est dans la haine et dans la haine antisémite. Comme si la haine anti-juive était structurante pour tout le reste, pour la subjectivité, pour la définition de l'individu qui s'exprime à ce moment-là.
Aurélie Marciero, qu'est-ce qu'on fait sur la question des réseaux sociaux qui sont le grand théâtre des haines d'aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, il faut suivre le chemin de l'Allemagne qui s'est dotée il y a quelques mois d'une loi prévoyant de sanctionner les opérateurs des réseaux sociaux d'amende s'ils ne retirent pas dans les 24 heures des propos signalés par des usagers comme outranciers ou violant la Constitution? Est-ce que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre?
Effectivement, ce qu'a annoncé le président, en fait, était déjà dans les tuyaux précédemment parce que Laetitia Avia, donc, qui va être en charge de la proposition de loi, avait déjà rendu à Matignon un rapport en septembre. Et effectivement, il faut, avec 20 propositions, pour passer une nouvelle étape, effectivement, dans la lutte contre le racisme mais la haine sur Internet, avec un recul de l'état de droit sur Internet réellement. Donc il y a effectivement une inspiration de la loi allemande qui visiblement donne de bons résultats. Et l'idée de cette loi, c'est finalement de ne pas laisser s'installer les contenus racistes, antisémites, parce qu'aujourd'hui en France, le temps, c'est très compliqué de signaler, et le temps de les faire enlever, ça peut être très long. Et là, ce que voudrait le gouvernement et le président, c'est qu'effectivement, ce soit enlevé dans les meilleurs délais, avec sinon des amendes très très lourdes, parce qu'aujourd'hui les plateformes qui n'ont pas un statut d'éditeur ne se sentent pas totalement responsables de ce qui est publié sur les plateformes. Et donc effectivement, si on a vraiment des amendes qui se comptent en millions d'euros, on peut imaginer que ces contenus haineux ne s'installeront pas, parce qu'on sait comment l'engrenage des réseaux sociaux, où en fait c'est celui qui diffuse les messages les plus haineux, qui se fait le plus entendre, qui est le plus repris, et donc tout ça se monétise en plus.
Ça peut être un bon moyen, Brice Teinturier, de lutter contre ce déferlement de haine, et est-ce qu'il faut peut-être aller plus loin? Pourquoi pas jusqu'à l'anonymat? C'est une chose dont certains parlent.
L'anonymat semble extrêmement difficile quand même à mettre en œuvre, mais oui, ça peut être un moyen parmi d'autres. Ce ne sera pas, hélas, la solution à tous les problèmes, mais c'est un moyen qu'il faut explorer. Je crois qu'à partir du moment où un certain nombre de mots sont utilisés, qui relève en réalité souvent de la qualification pénale, ce que les gens ont tendance à oublier. Mais il y a des contenus sur les réseaux sociaux qui peuvent vous faire traduire devant un tribunal, parce que c'est pas simplement de l'opinion, c'est du pénal, c'est quelque chose qui est répréhensible quand vous diffamez quelqu'un, quand vous l'attaquez au nom de ses supposées
origines. Oui, mais sauf que la justice peut pas faire son œuvre quand on est derrière un pseudo.
Bien sûr, mais le simple fait de pouvoir dire on va identifier ces personnes-là et elles peuvent être condamnées, je crois, est un rappel utile de la norme. On en revient à ce qu'on avait dans notre enquête aussi, sur la question de la norme, ce qui est acceptable et pas acceptable, dissible et pas dissible. Et quand on lâche sur un certain nombre de points sur la dissibilité de certaines affirmations, eh bien ensuite, le torrent se déverse.
Il y a une question que je voudrais vous poser, Brice Teinturier, et je poserai la même à tout le monde. La France, on le dit, a basculé dans l'ère de la violence, dans l'ère de la haine. Et en même temps, elle a échappé, en tout cas jusqu'ici, au populisme dans les urnes. Et les intentions de vote, par exemple, pour les prochaines élections européennes, nous montrent que ça pourrait bien continuer, puisque La République En Marche reste devant, alors de peu, mais reste devant le Rassemblement National. Comment expliquer ce paradoxe, Brice Teinturier ?
D'abord parce que les oppositions sont extrêmement fragmentées. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de point de jonction dans l'opinion, dans la grande opinion, entre les sympathisants, encore une fois, de la France insoumise et les sympathisants du Rassemblement national. Ils partagent un certain nombre de points, mais il ne faut pas oublier tout ce qui les oppose, tout ce qui les éloigne. Les sympathisants de la France insoumise ne sont pas obsédés par la question de l'immigration. Leurs préoccupations principales sont les inégalités. Donc en réalité, il y a énormément de divergences entre ces deux expressions de la radicalité ou de la colère qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas confondre. Et c'est un obstacle, sans être naïf, c'est un obstacle à ce qui s'est passé, par exemple, en Italie, et par exemple dans d'autres pays où le populisme est arrivé au pouvoir parce qu'il incarnait un des deux grands partis majoritaires. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est quand même celui qui était le candidat des Républicains. Nous n'avons pas ça aujourd'hui en France. Il y a une fragmentation, il y a un certain nombre d'éléments qui font que, pour l'instant en tout cas, l'hypothèse d'une victoire du Rassemblement National à la présidentielle n'est pas encore d'actualité.
Marc Weissmann, sur cette corrélation qu'on peut établir ou pas entre montée du nationalisme et montée des haines.
Je pense qu'on a on a un paradoxe étrange avec une situation inversée de celle des États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y avait une énorme colère pratiquement invisible et un type, Donald Trump, et aidé de Steve Bannon, qui a su la voir alors que personne ne la voyait et il a réussi à se faire élire à travers ça. Nous, on a le contraire, une colère et une haine flagrante partout et une incapacité de la classe politique à en tirer profit, ou des candidats en tout cas. Je crois que ça vient du fait que la France est une tendance lourde. D'abord, on a affaire à la remontée de narrations qui sont extrêmement ancrées dans le pays. Faut se souvenir que l'antisémitisme virulent de la première moitié du XXe siècle, avant d'être à Vienne, avant d'être en Allemagne, était en France au début du XXe siècle. Le protocole des sages de Sion, c'est ici qu'il a été écrit à cause du climat général. Ça a toujours existé d'une certaine manière. Et on a la résurgence de ça. Mais dans la première moitié du XXe siècle, la même chose se passait. On n'a pas eu de traduction politique de ça. Il a fallu une influence étrangère. Il a fallu l'occupation pour qu'un gouvernement finisse par incarner cette tendance, alors que c'était culturellement très présent. Là, je pense qu'on a quelque chose du même ordre. Quelque part en France, la narration anti-moderne qui est à la source de ces haines, et c'est un antimodernisme qu'on trouve autant dans les courants antilibéraux de la droite extrême que dans le salafisme. S'ils se retrouvent là-dessus, j'essaie de le raconter dans le livre, dans Un temps pour haïr, comment ces deux courants en fait se retrouvent dans une certaine haine des Lumières et de la modernité. Donc ils se retrouvent là-dessus, mais c'est un courant anti-moderne qui a une histoire, des racines très profondes en France, pratiquement qui date pratiquement de la Révolution et même d'avant, et qui trouve sa source aussi dans le refus de l'industrialisation, dans le refus de la Révolution industrielle, des grandes banques, etc., dans les classes populaires. C'est Charles Maurras qui a réussi à faire l'alliance des deux, de la révolte populaire et des courants antimodernes intellectuels en France pour créer cette espèce de narration typiquement française. Mais c'est une narration justement parce qu'elle est populaire, justement parce qu'elle est ancrée. Les hommes politiques n'arrivent pas facilement à lui donner une figure politique. Il faut un déclencheur extérieur. Alors ce déclencheur extérieur, il existe en ce moment en France et on ne sait pas encore ce qu'il va donner. C'est évidemment l'influence russe. C'est-à-dire que on sait que Russia Today, Sputnik et tout ça soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. L'influence russe, elle est présente. On a vu encore ce week-end une gilet jaune interviewée par Chateaudet sur les Champs-Élysées en train d'expliquer que Poutine devait donner des leçons à Emmanuel Macron pour savoir comment diriger un pays. Je ne pense pas du tout que ce soit un hasard. Je pense que les Russes sont très présents dans le désir de chaos. Ils savent souffler sur les braises, parce que le désir de chaos, il est présent en France. Il y a un désir de destruction générale, mais les Russes savent exactement sur quoi appuyer, et ils y arrivent pour l'instant. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à trouver le bon candidat pour incarner ça? Est-ce que, par exemple, François Asselineau va être celui que Éric Drouet voudrait qu'il soit aux européennes? L'avenir le dira. Mais c'est une donnée qui est présente. On peut pas l'oublier.
Brice Nathurier, vous lirez.
Je crois également qu'il y a dans notre pays, dans ce pays, encore un consensus assez fort autour de la question de la laïcité et autour de la question de la République. Et c'est un obstacle à une conjonction ensuite du nationalisme ou de l'exaltation religieuse qui peut mener et qui mène à l'antisémitisme, et pas qu'à l'antisémitisme, au rejet ou à l'expression de mouvements extrêmement violents et forts à l'égard de toute une série de minorités. Parce qu'il y a évidemment l'antisémitisme, et c'est aujourd'hui ce qui est en pointe, mais il faut continuer à regarder ce qui se passe en termes d'homophobie, de rapport aux femmes, de rapport aux Roms, de rapport aux musulmans. Il y a aussi des réactions
ça
qui
va vraiment perdre. Ça va vraiment ensemble. L'homophobie, le rapport aux femmes et l'antisémitisme vont tout à fait ensemble. Delphine Orbidol en parle dans son livre, j'essaie d'en parler dans le mien aussi. C'est vraiment une seule haine avec plusieurs cibles.
Si cette violence, si cette CN sont là, c'est aussi parce que, et d'ailleurs c'est ce que montre votre étude, il y a eu une rupture dans le dialogue au fond entre le peuple et les élites. Et précisément, le grand débat national auquel on assiste depuis quelques semaines, Aurélie Marciro, il vise à renouer ce dialogue. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut permettre de le faire? Est-ce qu'il est de nature à le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, le déploiement de cet effort gigantesque d'Emmanuel Macron sur le terrain est de nature justement à reconstruire ce dialogue qui est la seule manière au fond d'éviter ce déferlement de violence et de haine?
Dans le magazine, le philosophe Marc Crépon répond justement à cette question, comment contrer la pulsion de mort? Il explique que la violence revient toujours à suspendre le discours, à retourner l'échange verbal en arme destructrice. On attend du langage qui constitue un recours. Et donc il explique effectivement le grand débat actuellement qui se tient peut être une solution. Après, il faut juste voir ce qu'en fait le gouvernement. Si s'il n'en fait rien et que les Français ont encore une fois l'impression qu'on ne les entend pas, ça va agrandir cette déconnexion entre le peuple et ses élites, entre le haut et le bas, qui arrive, on l'a dit, en première raison de la justification de la violence, notamment chez CSP-.
Brice Nathurier, il est de nature justement à reconstruire ce dialogue?
Il peut le permettre, il est en tous les cas extrêmement nécessaire. Il ne faut pas oublier que la dynamique première du mouvement des Gilets jaunes, c'est une réaction à la question des inégalités, et c'est un sentiment d'humiliation. C'est ça qui crée, au-delà de la taxe évidemment, mais qui crée la dynamique première du mouvement. Et le fait de débattre, le fait de rentrer en relation, le fait de dire « je vous écoute » est quelque chose qui, incontestablement, on l'a mesuré, permet aussi de faire baisser la température. Tout l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on fera de ce débat. En soi, il est une bonne chose. Tant qu'il y a de la relation et de l'échange verbal, eh bien la violence cesse, le coup de poing, il arrive quand vous ne parlez plus, mais encore faut-il que, à la sortie de ce débat, il y ait des réponses qui ne donnent pas le sentiment aux Français qu'on les a filoutés ou qu'on n'a pas abordé les vrais sujets.
Marc Weissmann, est-ce qu'il est de nature à renouer justement ce dialogue et à permettre une inhibition à nouveau des passions qui ont été largement débridées?
J'en ai aucune idée, ça dépendra de ce qui en est fait. Comme ça, c'est difficile de répondre. Si ça se traduit de manière concrète, et peut-être pas si c'est un simple coup de com', c'est pas possible de savoir.
Et est-ce que la littérature, pour le coup, a un rôle à jouer? Tout à l'heure, Aurélie Marciro évoquait Marc Crépon, il avait notamment écrit un livre chez Odile Jacob il y a quelques années, L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence, dans lequel il expliquait que la littérature peut et doit nous permettre d'échapper au nihilisme de notre temps et donc nous aider à échapper à cette prolifération du consentement à la haine d'une certaine manière. Est-ce que là, finalement, le salut passera par la littérature?
Ça, j'en sais rien. J'ai essayé de dessiner une géographie et une histoire de la haine dans mon propre livre, mais bon, je ne vois pas très bien ce que les livres peuvent faire de plus que d'essayer de montrer les choses.
Il y a un auteur qui a beaucoup réfléchi à la haine, qui s'appelle Spinoza, et je voudrais juste terminer en le citant. Il écrit, c'est dans le Tractacus et dans l'Éthique, « Terminons en disant que la haine et l'aversion sont en elles autant d'imperfections que l'amour a de perfection, car celui-ci tend à changer les choses en mieux. Il tend vers l'accroissement et la force, qui est une perfection, tandis que la haine tend à la destruction, à l'affaiblissement, à l'annihilation, ce qui est l'imperfection même. En d'autres termes, il n'y a pas de haineux heureux. C'est une contradiction dans les termes.
Oui, c'est toujours une forme d'autodestruction.
Bon, Spinoza, il y a aussi Norbert Elias, dont on n'a pas parlé, mais oui, il y a beaucoup d'auteurs, évidemment. Merci tous les trois. Mais vous allez rester pour notre revue des matins. Brice Tinturnier, Aurélie Marciro, je rappelle donc ce futur nouveau magazine littéraire, c'est pour le mois de mars, L'état de la haine.
Ça sera jeudi en kiosque.
Merci également, Brice Tinturnier. Vous avez assuré, vous, donc, cette enquête sur la montée de la haine.